Vous écoutez On lit pour vous.
Déclin, dormance et réveil des langues autochtones. Un texte de Louis-Jacques Doré, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir. L'écrivain Wendat, Louis-Carl Picard-Sioui, déclarait en 2017 « Je vis dans un pays où les deux langues officielles sont des langues étrangères. » Il exprimait ainsi la perception qu'ont les Autochtones du Québec et du Canada de la situation langagière qui est la leur, locuteurs ou gardiens de parler, dont on les a peu à peu dépossédés pour les remplacer par des langues imposées de force par les puissances coloniales. Ici comme ailleurs dans le monde, l'histoire de ces parlers a été la même. Un déclin progressif ayant souvent mené à leur dormance partielle ou complète, suivi au cours des dernières décennies d'un réveil encore fragile. En tant que colonisateur, Champlain et ses successeurs s'arrogèrent le droit d'annexer au royaume de France les terres du nord-est américain occupées par les nations algonquiennes et iroquoiennes afin d'y développer le commerce des fourrures. Ils comprirent cependant qu'il leur serait impossible d'atteindre leurs objectifs économiques et de les défendre sans l'appui de ces peuples autochtones. Ils considérèrent donc ces derniers comme des entités souveraines avec lesquelles on devait traiter d'égal à égal. Dans un tel contexte, il était normal que ces gens préservent leurs parlers ancestraux. C'était plutôt les Européens travaillant en milieu autochtone qui s'initiaient aux idiomes locaux. Les missionnaires enseignèrent à leurs ouailles à lire et à écrire dans leur langue sans s'attendre à ce qu'elles apprennent le français. L'historienne des religions, Anne Doran, laisse implicitement entendre que chez les Innus, la littératie en Innu et Moon a doté les convertis d'un outil facilitant le développement d'une spiritualité chrétienne qui leur était propre, bien adaptée et intégrée à leur pensée ancestrale. Après la conquête de 1760, le gouverneur Murray reconnut aux Hurons-Wendat, qui avaient combattu aux côtés de leurs alliés français, le droit de retourner chez eux à Lorette, aujourd'hui Wendake, près de Québec, et de continuer à s'y adonner à leurs occupations habituelles. Malgré cette attitude conciliante, le comportement des Britanniques à l'égard des Autochtones différait de celui des Français. Le peuplement de la Virginie et de la Nouvelle-Angleterre avait montré que les colons anglais refusaient généralement de cohabiter avec les premiers occupants du pays, préférant les expulser des terres qu'ils leur avaient prises ou achetées. Cette expulsion pouvait être violente, puisqu'on considérait les Autochtones comme nuisibles au développement du pays. En 1763, le général Amherst proposa ainsi d'éliminer les guerriers de Pontiac, initiateurs d'une révolte en faveur de la France, en leur distribuant des couvertures infectées par la variole. Les Britanniques ne toléraient les populations locales avec leurs coutumes et leurs langues que dans la mesure où leur présence ne nuit pas à leur expansion commerciale et territoriale. Déclin langagier. La situation langagière des Autochtones changea dramatiquement quand le Canada commença à s'étendre au-delà de ses frontières initiales. À partir du milieu du 19e siècle, les autorités se mirent à légiférer afin d'éviter que les premiers occupants entravent le peuplement européen du nord ontarien puis de l'Ouest canadien. Dans cette dernière région, la révolte anticoloniale des Métis et des Premières Nations du Manitoba de 1867 à 1870, reprise 15 ans plus tard en Saskatchewan, amena le Parlement fédéral à adopter en 1876 une loi sur les Indiens, encore partiellement en vigueur. Pour leur plus grand bien, les Autochtones devaient être confinés dans des territoires bien circonscrits, les réserves, ou des pensionnats et autres écoles missionnaires créées et subventionnées par le fédéral en frais de bons Canadiens anglophones et chrétiens, débarrassés de leur langue et coutumes primitives. cette façon de faire, progressivement étendue à toutes les populations autochtones, y compris aux Inuits de l'Arctique central et oriental après 1950, entraîna le déclin des langues et des cultures des premiers peuples. La sédentarisation forcée, la scolarisation dans les langues coloniales et l'adoption généralisée des pratiques culturelles euro-américaines menèrent en quelques générations à un transfert langagier vers l'anglais ou le français dans quelques régions du Québec. Les sociolinguistes appellent diglossie ce genre de situation. La coprésence de deux langues socialement inégales, l'une généralement coloniale, dominante et valorisée, l'autre vernaculaire, dominée et souvent méprisée. À long terme, la diglossie peut mener à ce que le linguiste Louis-Jean Calvet qualifie de glottophagie, l'effacement du parler vernaculaire, avalé par la langue dominante. Cette spoliation langagière contribue à renforcer la dépossession coloniale. Vous écoutez « Déclin, dormance et réveil des langues autochtones », un texte de Louis-Jacques Doré, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir. Langues autochtones. Les 11 langues autochtones du Québec ont connu le même déclin que celles du reste du Canada. Des facteurs particuliers, proximité des centres urbains, mariage fréquent avec des allochtones, ont fait que deux d'entre elles, le Wendat et l'Abénaki, sont maintenant entrées en dormance, puisque plus personne ne les parle. En sommeil au Québec, le Holastoké est encore connu de quelques aînés au Nouveau-Brunswick. Les statistiques sont éloquentes. Selon les données du recensement de 2021, sur 205 015 résidents du Québec, s'identifiant comme Inuits, membres des Premières Nations ou Métis, seuls 45 210, soit 22 % du total, étaient alors de langue maternelle autochtone, un pourcentage un peu plus élevé que dans l'ensemble du Canada, 9,5 % de locuteurs natifs. Le même recensement montre que les parlers en usage dans les communautés éloignées, Inuktitut, Cree, Naskapi, Atikamekw, Innu de la Côte-Nord, sont toujours transmis aux enfants et qu'ils constituent la première langue de plus de 80 %, parfois même 90 % de leurs locuteurs. C'est surtout dans les territoires situés à proximité des régions développées du Québec, ainsi que chez les Autochtones établis en milieu urbain, que les langues sont en danger immédiat de disparition. Cet effacement, qui peut sembler inéluctable, se voit cependant contrecarré depuis les années 1970 par l'avènement, au Québec comme au Canada, d'une forte affirmation identitaire autochtone due à divers facteurs. La montée d'une première génération de jeunes autochtones hautement scolarisés, l'opposition au projet de développement de type B. James, la réaction au drame des pensionnats et, plus largement, le mouvement mondial en faveur des droits des minorités. Malgré le déclin accéléré des langues et des cultures depuis le milieu du siècle dernier, l'identité autochtone n'a cessé de s'imposer. Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, ont su se doter d'institutions et d'outils politiques et culturels aptes à défendre cette identité, fondée sur les valeurs, les pratiques et les parlers ancestraux. Renaissance. Tout cela explique qu'on observe actuellement au Québec un mouvement généralisé de préservation et de revitalisation des langues autochtones. La plupart d'entre elles sont maintenant enseignées à l'école, au premier cycle du primaire tout au moins. Chez les Mohawks, depuis 1978, la Kanawake Survival School offre aux jeunes anglophones de naissance un programme complet d'immersion en Kaniankea, leur permettant ainsi de parler couramment cette langue qui n'est plus transmise aux enfants. À Wendake, le Wendat est sorti d'un sommeil de plus de 100 ans. Sa reconstruction, à partir des grammaires et des dictionnaires jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles, est en bonne voie de complétion et on l'enseigne aux écoliers et aux adultes. Ce réveil a permis à Louis-Carl Picard-Sioui de publier un ouvrage, « Les visages de la Terre » 2019, comprenant 12 poèmes que l'auteur francophone a pu écrire dans sa langue ancestrale. Plus généralement, la musique, la littérature et le cinéma autochtones ont maintenant pris leur place dans l'offre culturelle destinée au grand public. Doit-on s'attendre à une renaissance complète des langues autochtones? Sans doute pas. Elles resteront toujours fragiles. Toutefois, elles ne sont pas vouées à disparaître, comme leur déclin le laissait supposer, et elles peuvent même sortir de leur dormance. On est donc en droit d'espérer que dans un contexte de bilinguisme constructif, où les parlers majoritaires n'entraînent pas l'affaiblissement des idiomes ancestraux, les langues autochtones continuent à servir de fondement identitaire à leurs locuteurs, permettant ainsi au parler des premiers peuples d'occuper la position prééminente que l'histoire leur donne droit de préserver au sein de la société québécoise et canadienne contemporaine. C'était « Déclin, dormance et réveil des langues autochtones », un texte de Louis-Jacques Doré, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir.
En mode solution, équité, diversité et inclusion. Le retour du balancier qui menace les acquis. Un texte d'Émilie Nollet, paru le 26 septembre 2024 dans la presse. Des nouvelles tombent au sujet d'entreprises se rétractant en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, dont Molson Coors de notre côté de la frontière, nous rappelant que les organisations s'adaptent aux idéologies politiques de leur public cible pour conserver leur part de marché. Que prédit-on pour la suite? Avant d'être des consommateurs, les individus sont des êtres politiques. De nombreuses études démontrent que l'adhésion à des causes telles que celles de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, EDI, est corrélée à l'allégeance politique. Je recommande d'ailleurs « The Righteous Mind, Why Good People Are Divided About Politics and Religion » de Jonathan Haidt, 2008. Ainsi, la gauche, sensible aux questions d'équité à grande échelle, s'est coordonnée il y a environ 5 ans et a permis à des groupes de faire des progrès considérables en matière d'EDI. Elle a rendu l'EDI incontournable en menant des campagnes de grande envergure sur les campus, sur les réseaux sociaux et en entreprise. Plusieurs bienfaits en découlant sont incontestables et des comportements, autrefois banalisés, ne sont plus acceptables aujourd'hui. En réplique à ce mouvement, la droite, sensible aux questions de liberté individuelle, fait le récit d'instances où la liberté d'expression a été bafouée, où on semble hiérarchiser des individus en fonction de leur adhésion à un code EDI, où des militants plus bruyants de gauche pratiquent de nouvelles formes d'exclusion, et plus. Si la gauche reconnaît souvent certaines dérives à huis clos, elle craint aussi pour les acquis durement gagnés. De toute évidence, quelque chose est en train de se produire avec le mouvement du pendule politique. Et les entreprises là-dedans? C'est dans ce contexte volatile que les entreprises sont prises et transformées en instruments politiques. En réplique à la gauche, la droite donne un contre-coup au mouvement du pendule pour exercer une pression sur les entreprises par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Les entreprises doivent se rétracter et se recentrer, ou sinon, comment réagir à ces menaces? Comment recrée-t-on des ponts et un dialogue constructif autour de l'EDI en entreprise dans un tel contexte? Des ouvrages comme celui de Dobin et Kalev, « Getting to Diversity, What Works and What Doesn't » 2022, émanant de plus de 30 ans de recherche auprès de plus de 800 entreprises, ouvre la voie à des changements durables infusés de psychologie sociale et organisationnelle et protégeant le bien-être des individus de la diversité sans braquer les organisations. Repenser l'EDI en entreprise. Si les entreprises souhaitent préserver les acquis du travail non terminé des dernières années, elles doivent ajuster le tir en dépolitisant la situation. Voici quelques idées simples et non exhaustives. Imbriquer l'EDI dans les procédures des organisations plutôt que d'en faire un élément à part. Par exemple, faire des grilles d'évaluation quantifiables. Enseigner l'intervention en contexte de harcèlement dans des formations en leadership plutôt que d'en faire une formation séparée. Développer l'agilité politico-sociale de l'organisation dans les communications, notamment en trouvant des synonymes conceptuels plus neutres pour les terminologies engendrant une posture défensive. Se concentrer sur ce que les employés peuvent faire plutôt que ce qui est à proscrire, car personne n'aime se sentir restreint. Développer l'art du débat constructif et des désaccords sainement exprimés. Nul besoin de déclarer systématiquement chaque manière dont on pratique l'EDI, sinon on risque ironiquement de diminuer son efficacité. Les politiques EDI vivent en ce moment un retour du balancier. Et si, plutôt que de tomber dans le panneau de la polarisation et risquer les gains des dernières années, nous nous inspirions de l'Heterodox Academy, dont le slogan est « Les grands esprits ne se rencontrent pas toujours. » C'était, en mode solution, équité, diversité et inclusion. Le retour du balancier qui menace les acquis. Un texte d'Émilie Nollet, paru le 26 septembre 2024, dans la presse.
Quand les hommes vivront d'amour, un texte d'opinion de Virginie Dosti-Toupin, paru le 2 janvier 2025 dans la presse. Virginie Dosti-Toupin est mère de 4 enfants. À l'école internationale que je fréquentais au secondaire, la tradition voulait que nous chantions en chœur « Imagine » de John Lennon à chaque gala de Noël. Inévitablement, cela donnait de l'urticaire à notre enseignant de français, le plus fervent amoureux et défenseur de la langue de Molière que j'ai côtoyé à ce jour. Chaque année, mes amis et moi le toisions, mystifiés devant son non-verbal criant, ses bras croisés durs comme fer et ses yeux qui roulaient plus intensément que ceux des adolescentes que nous étions. Nous l'avons finalement confronté en lui demandant ce qui, par-delà le fait qu'elle soit en anglais, l'irritait tant dans ce succès de Lennon qui fait d'ordinaire l'unanimité. Ses explications furent limpides. C'est pourquoi l'année suivante, nous lui avons réservé la surprise d'interpréter la chanson qu'il préférait de loin à Imagine, soit « Quand les hommes vivront d'amour ». Notre enseignant avait raison sur toute la ligne. Cette version nous ressemblait davantage, par sa langue et son humanisme typiquement québécois, évidemment, mais aussi parce qu'elle faisait vibrer une corde sensible. En effet, cette chanson tire son origine d'une cause chère à Raymond Lévesque, le déclenchement de l'indépendance de l'Algérie. À l'inverse d'Imagine, qui vante la fin des frontières et des pays, le texte de Lévesque évoque, quant à lui, la promesse de paix que les frontières peuvent parfois porter, une espérance qui résonne fort pour plusieurs Québécois. « Quand les hommes vivront d'amour » revêt également l'immense avantage de mettre en exergue la véritable clé de la paix. « L'amour, Chris », pour reprendre la formule choc de Louise Latraverse. Après tout, seul l'amour sait nous guider vers un monde meilleur. Cette forme d'amour, or notre compréhension de ce concept repose sur une vision quelque peu réductrice. Les Grecs, eux, distinguaient 7 formes d'amour qu'il vaut la peine de revisiter. Prenons Eros, l'amour passionné. Contrairement à notre perception idéalisée, les Grecs voyaient en Eros une force puissante et dangereuse, capable de submerger l'individu et de bouleverser sa rationalité. Certes exaltant, cet amour ne suffit pas à créer des sociétés équilibrées. Puis il y a pragma, l'amour pérenne et pragmatique, fondé sur les compromis et la compréhension mutuelle. Cet amour sous-tend les relations qui perdurent, nourries par des efforts quotidiens pour maintenir l'harmonie. Dans un monde où nous considérons souvent l'amour comme éphémère, pragma nous rappelle la beauté de la constance. Viennent ensuite storge, l'amour qui anime les familles, philia, l'amitié profonde qui cimente les relations humaines, et ludus, l'amour ludique qui revitalise l'âme et insuffle de la joie dans la routine. Avec leur usuelle sagesse, les Grecs discernaient 2 aspects de philotia, l'amour-propre, un versant malsain, narcissique, et un côté sain, celui qui permet de s'accepter et d'assurer son bien-être intérieur. À une époque où l'amour de soi frôle parfois l'obsession, le fait de tendre vers l'équilibre promu par les Grecs empêche que cet amour s'érige en obstacle à l'ouverture aux autres. Ultimement, c'est agapé, l'amour désintéressé de son prochain, qui mérite notre plus grande attention. Alors que la solitude guette toujours plus d'individus et que la polarisation a le vent en poupe, cultiver l'agapé prend plus que jamais tout son sens. La chanson de l'évêque relève peut-être de l'utopie, mais elle n'en demeure pas moins juste. Quand les hommes vivront d'amour, ou d'amour au pluriel, il n'y aura plus de misère. C'était « Quand les hommes vivront d'amour », un texte d'opinion de Virginie Dosti-Toupin, paru le 2 janvier 2025 dans La Presse.
La baleine, la haute mer et l'ADN. Un texte de Catherine Aubertin, paru en mai 2023 dans le numéro 547 de la revue Pour la science. La haute mer, 60% des océans, échappe à la souveraineté des États, ce qui complique la conservation de ce patrimoine commun et le partage des bénéfices tirés de son exploitation. Dans la chanson de Steve Waring, une baleine bleue cherche de l'eau, si possible propre. Peut-elle compter sur l'objectif 30-30 adopté lors de la COP15 en décembre 2022 qui prévoit la protection de 30% des surfaces terrestres et marines d'ici à 2030? Dans ce contexte, le 5e Congrès international des aires marines protégées de l'UICN a eu lieu début février 2023 sur les terres des nations Squamish, Musqueam et Tsleil-Waututh, à Vancouver. L'enjeu était de faire reconnaître les droits des populations autochtones sur leur territoire océanique afin d'en assurer la conservation et d'insister sur le besoin de reconnexion des humains à l'océan. C'est que les petits pays insulaires, les plus vulnérables à la montée des eaux, sont de grands États océaniques. Ils ont défendu leurs échanges traditionnels avec les êtres et éléments marins, en opposition à la violence et à la technologie coloniale. Ils ont surtout fait part de leur chagrin devant les dégradations de l'océan. La baleine bleue trouve beaucoup de choses, du détergent, du DDT et maintenant beaucoup de plastique, mais toujours pas de l'eau propre. Un peu plus tard, le 20 février, s'est ouvert à l'ONU, à New York, la 5e session de la Conférence intergouvernementale sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des juridictions nationales. BBNG pour Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction, devant compléter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, CNUDM. Après 15 ans de négociations infructueuses, l'espoir était grand. La vieille actrice Jane Fonda, endossant le chagrin des peuples autochtones, avait remis une pétition signée par 5,5 millions de personnes réclamant un traité fort de protection de l'océan menacé par la pollution et la surexploitation des ressources. Mais au siège de l'ONU, on est loin de l'émotion et des baleines. Saviez-vous qu'un seul de ces cétacés stocke autant de carbone que 1000 arbres? La pêche et l'exploitation des fonds marins étant du ressort d'autres traités, les débats ont porté sur les conditions de création de zones marines protégées, sur l'impact des activités et le partage équitable des avantages issus des ressources génétiques marines. En d'autres termes, le contrôle de l'océan divise les États au lieu de les réunir. Le résultat des négociations est un traité historique sur l'exploitation de l'océan conciliant les principes du patrimoine commun de l'humanité et de la liberté de la haute mer, tout en respectant les susceptibilités et l'avidité économique des uns et des autres. Le consensus pour les prises de décision n'est plus exigé. C'est une façon élégante de donner un droit de veto concernant les zones maritimes disputées, et les études d'impact seront sous la responsabilité de l'État qui mènera les activités. La farce du renard libre dans le poulailler libre, autrement dit la loi du plus fort, qui s'appliquait sans garde-fou avant le traité aux ressources génétiques marines, une goutte d'eau de mer contient des millions de micro-organismes dont l'ADN est riche de promesses pour les biotechnologies, est désormais encadré par la création d'un fonds alimenté par les revenus tirés de la prospection. Lors de la prochaine réunion de l'Autorité des fonds marins, autre instance de la CNUDM, les industries minières, au nom de la transition énergétique, ne manqueront pas de présenter des plans d'exploitation durable des matériaux indispensables au développement des énergies renouvelables. La baleine bleue va chercher encore un peu avant de trouver de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. C'était « La baleine, la haute mer et l'ADN », un texte de Catherine Aubertin, paru en mai 2023 dans le numéro 547 de la revue Pour la science.